7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Mickaël.
Et un seul et unique sujet au menu ce soir, Olivier, la crise vénézuélienne avec de nouvelles manifestations qui ont eu lieu ce week-end à Caracas.
8e semaine consécutive de mobilisation pour réclamer le départ du président Nicolas Maduro, une 48e victime ce week-end après des affrontements entre l'armée et plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les villes du pays. Des rassemblements aussi de soutien plus pacifiques un peu partout dans le monde, comme à Paris, samedi. Place de la République. Autour du violoniste vénézuélien Alexis Cárdenas, des dizaines de ressortissants, dont certains ont décidé de fuir leur pays, aujourd'hui plongé dans une guerre civile de basse intensité, un terme que vous-même n'hésitez pas à employer, Christophe Ventura. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Spécialiste de cette région à l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Christophe Ventura, qu'entendez-vous par guerre civile de basse intensité ?
On est dans un entre-deux aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai choisi cette expression qui me semble dire à la fois quelque chose sur l'intensité, croissante hein, de ce conflit politique, et en même temps qui nous dit aussi que ce pays reste encore, un pays dont les institutions sont debout, et on est quelque part entre les deux avec une violence qui a des moments de haut et des moments de bas, et même si actuellement on est plutôt dans un moment de haut.
Est-ce qu'on peut dire que clairement Nicolas Maduro a tenté ces derniers mois, ces dernières semaines, de mettre la main sur tous les organes du pouvoir ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il a renforcé les siens dans ceux qu'il détient, c'est-à-dire l'exécutif, mais il n'a pas, si vous voulez, d'autres pouvoirs constitutionnels comme l'Assemblée, évidemment, qui est au moins de l'opposition.
Mais est-ce que la tentative de transférer les pouvoirs du Parlement dans les mains de la Cour suprême il y a quelques semaines, est-ce que c'est pas clairement une tentative de museler l'opposition ?
Alors c'est cette décision-là qui a finalement impulsé ou déclenché la phase actuelle de manifestation et des 40-50 jours de mobilisation de l'opposition actuelle. Mmh. Le problème, c'est que aujourd'hui au Venezuela, on est dans une situation qui ne supporte pas en réalité une lecture, j'ai envie de dire, un peu unilatérale ou binaire sur ce qui se passe, parce qu'on a des camps aujourd'hui qui ne trouvent plus les moyens et les médiations de se parler dans le cadre d'une opinion publique qui largement, si vous voulez, ne se retrouve pas vraiment ni dans l'opposition qu'on voit aujourd'hui et qui par ailleurs aujourd'hui est aussi critique par rapport au gouvernement.
Et dans cette situation, dans ce blocage politique, quelle est la responsabilité selon vous de l'opposition ?
L'opposition a des responsabilités parce qu'à partir du moment où elle n'a pas reconnu l'élection même de Nicolas Maduro, ça ouvrait la perspective d'un bras de fer qui ne s'est pas démenti par la suite. Et l'opposition, il faut bien comprendre qu'elle est très éclatée. Ce n'est pas une opposition, homogène. Il y a des groupes politiques qui vont de l'extrême droite jusqu'aux sociaux-démocrates conservateurs qui n'ont qu'un point commun, c'est de faire tomber le président Maduro, mais qui au-delà de ça sont divisés sur à peu près tout.
Christophe Ventura, jeudi dernier, les États-Unis ont décidé de placer 8 membres de la Cour suprême vénézuélienne sur leur liste noire financière. Est-ce que, comme le prétend le gouvernement Maduro, les États-Unis sont en train de manœuvrer en coulisses pour soutenir cette opposition dont on parle ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que M. Trump, qui au départ ne fait pas du Venezuela un dossier prioritaire pour lui, ça n'a pas été un dossier prioritaire de sa campagne électorale, en revanche, il est clair qu'aujourd'hui, ça lui permet de satisfaire une partie de la droite des Républicains qui est très impliquée sur le dossier vénézuélien. Il faut se rappeler, par exemple, que Marco Rubio, qui était l'un des concurrents de M. Trump dans la primaire des Républicains, est très, très engagé auprès de l'opposition au Venezuela. Et donc, M. Trump, de ce point de vue-là, ça lui permet d'avoir des points de contact avec les Républicains pour des questions politiques intérieures. Mais on n'est pas dans un scénario aujourd'hui où je crois que les États-Unis pourraient, comme ils l'ont fait en 2002, soutenir directement une opposition dans un coup d'État, par exemple. Je crois qu'on n'est pas là aujourd'hui.
On va revenir à la rue maintenant, Christophe Ventura. La Fédération médicale vénézuélienne, elle aussi, appelle à manifester aujourd'hui et parle d'un véritable holocauste de la santé imposé par le gouvernement.
Écoutez, je crois qu'il faut être prudent sur l'expression des uns et des autres, parce que vous êtes vraiment dans une guerre aussi qui est une guerre de la communication, où le champ médiatique est un terrain d'affrontement entre les chavistes et l'opposition. Donc il y a une sorte d'inflation aussi de formule. Je ne sais pas ce qu'entend la Fédération médicale par holocauste médical, je ne me prononcerai pas là-dessus. Si c'est pour dire qu'aujourd'hui au Venezuela, il y a des pénuries de médicaments, c'est juste, c'est tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pénuries sectorielles ponctuelles. On peut trouver de de tout pour s'approvisionner au Venezuela à partir du moment où on peut le payer. Or, la difficulté, elle est là, c'est qu'évidemment, une majorité de la population ne peut pas se payer les biens de consommation parce qu'avec l'inflation, ils sont inaccessibles.
Comment sortir de cette crise, de ce blocage politique aujourd'hui ?
La seule façon d'en sortir, ce serait qu'il y ait un dialogue politique qui se mette en place au Venezuela. Alors là aussi, il faut savoir que des initiatives ont été mises en place qui aujourd'hui, hélas, ne fonctionnent plus. Le pape a beaucoup agi pour que se mette en place cette table de dialogue. Il n'a pas été entendu par une partie de l'opposition vénézuélienne. Donc on est dans un blocage aujourd'hui, puisque il est très clair que l'option choisie par l'opposition, c'est plutôt la stratégie de la tension et de l'affrontement pour aller vers ce qu'il souhaite, c'est-à-dire que le gouvernement tombe. Que répond le gouvernement ? Il ne tombera pas. Maduro a dit qu'en gros, il ne céderait pas sur le fait de donner des élections anticipées, qu'il considère son mandat va jusqu'à l'année prochaine et que l'année prochaine, il y aura des élections présidentielles qui auront lieu et que les Vénézuéliens décideront à ce moment-là.
Merci à vous, Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et spécialiste du Venezuela, où la médiation est donc dans l'impasse, et ce, malgré les tentatives du Vatican.
Et le Vatican, justement, Olivier, que l'on compare souvent et pourtant à une super puissance diplomatique.
Et le Venezuela est au cœur d'une stratégie plus globale initiée par le pape François à son arrivée, replacer le Saint-Siège au centre de la scène internationale, stratégie que nous allons évoquer avec notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir à tous.
Clairement, si l'on prend l'exemple du Venezuela, le pape François met un point d'honneur à débloquer la situation.
En effet, Olivier, le pape François suit de près la situation au Venezuela. Il y a 18 mois environ, il a dépêché Monseigneur Celli sur place, un diplomate italien des plus chevronnés. Et puis en parallèle, la communauté catholique de Sant'Egidio mène aussi une action de médiation à Caracas. Il s'agit de personnalités laïques proches du Vatican qui ont fait leurs preuves, notamment en Colombie. Et c'est Gianni Labella qui mène les médiations pour Sant'Egidio au Venezuela.
Le pape connaît très bien la situation de Venezuela et il a choisi personnellement de s'engager dans cette situation. La situation au Venezuela, c'est une situation très critique. Le président de la République, Maduro, il a demandé au Saint-Siège de faire quelque chose. Il a commencé un dialogue entre la Saint-Siège, l'État vénézuélien et l'Église du Venezuela. Après, il était possible de faire un dialogue avec les partis de l'opposition. Maintenant, je dirais que cette médiation, il est un point critique. Il n'y a pas pour le moment de possibilité d'aller plus avant encore, parce que l'opposition elle a refusé l'idée de continuer un dialogue à cette table de dialogue avec le gouvernement et il a demandé comme condition préalable les élections politiques.
Le préalable des élections politiques, le Saint-Siège est aussi sur cette ligne-là. En tout cas, sa médiation au Venezuela est à ce stade au point mort.
Le pape François, Mathilde, qui a fait de l'Amérique du Sud sa priorité, hein.
C'est son continent, l'Amérique du Sud. Le pape François est argentin, comme vous le savez, alors cela joue nécessairement. À Rome, il a placé au plus haut poste de la curie des experts du continent. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, a été nonce, c'est-à-dire ambassadeur du Saint-Siège au Venezuela. Le numéro 3, Monseigneur Becciu, a été nonce à Cuba. Cuba qui signe l'une des victoires diplomatiques de l'ère François, la réconciliation entre Washington et la Havane. Cuba serait l'illustration parfaite de l'expertise diplomatique du Vatican, nous confirme le diplomate Monseigneur François Baquet. Cet ecclésiastique français a été formé à l'ENA, puis à la prestigieuse Académie Pontificale Ecclésiastique, l'école de formation des diplomates au Vatican.
Le Saint-Siège a eu un rôle certain pour la reconnaissance de Cuba par Washington. L'archevêque de la Havane a joué un grand rôle, le nonce a joué un grand rôle, mais il y avait la volonté du Saint-Père derrière, donc vous avez vu que le pape est allé à Cuba, le pape est allé rencontrer aussi le patriarche de Moscou à Cuba, ce qui était quand même un lieu un peu imprévu. Non ? C'est pas toujours facile à pouvoir définir exactement l'action, mais il y a une influence, il y a une action. L'Église catholique, le siège apostolique sont présents.
Une puissance diplomatique considérable pour un État microscopique, Mathilde, de seulement 44 hectares.
Oui, mais l'Église catholique, c'est un réseau mondial inégalé et surtout, particularité, réseau centralisé à Rome, autour d'une personne, le pape, qui est à la fois leader spirituel, chef d'une Église forte de 1,2 milliard de fidèles et chef de l'État de la Cité du Vatican. Le Saint-Siège envoie des représentants partout dans le monde, les nonces apostoliques, les ambassadeurs. Monseigneur Baquet a exercé en tant que nonce sur presque tous les continents.
Le Saint-Siège est pratiquement présent dans tous les pays du monde au point de vue diplomatique. Officiellement, il n'y a pas, malheureusement, avec l'Arabie saoudite, et il n'y a pas encore, mais ça c'est en gestation, la Chine continentale. Oui, il y a une influence du pape partout. Alors, il y a des nonces partout. Il y a pratiquement 125 nonces en fonction pour 200 nonciatures. Je m'explique. Vous avez des nonces qui ont plusieurs pays, mais le pape François donne beaucoup d'importance aux nonces. Il les reçoit facilement, il les écoute, il les consulte. Il est très actif et intervenant beaucoup. On voit sa marque même dans les nominations. Vous voyez, par exemple, en Centrafrique, il y avait un nonce jeune, situation difficile, il a sans doute très bien fait, il lui a donné un poste très important en seconde nomination, ce qui n'est pas du tout l'habitude. J'ai nommé au Mexique. Le Mexique, c'est le plus grand pays catholique du monde. Et je dirais du pape François, c'est un géopolitique.
Un géopolitique qui veut prendre sa part dans les processus de paix, qui estime central à ce titre le dialogue entre les religions. Les prochains voyages du pape le conduiront en Colombie en septembre, au Soudan du Sud, il l'espère à l'automne. D'ici là, il reçoit les personnalités au Vatican. Après-demain, c'est au tour de Donald Trump de venir ici à Rome. Et il faudra beaucoup de doigté diplomatique pour que cette rencontre porte des fruits.
La correspondance depuis Rome de Mathilde Imberti sur cette diplomatie. Massive vaticane qui, après son succès cubain, peine à trouver pour l'instant la clé du dossier vénézuélien.
Dossier vénézuélien signé ce soir, Olivier Poujade. Merci.